RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h10, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Merci d'être avec nous, un week-end des experts animaux écourté pour cette deuxième partie, puisqu'à partir de 8h moins le quart, vous retrouverez toute la Dream Team F1 d'RMC pour le Grand Prix de Chine, à suivre en direct et en intégralité chez nous. Laetitia, on a donc pratiquement trois quarts d'heure à passer ensemble encore. On va parler en fait d'animaux, bien sûr, de tigres, d'ours et puis d'un film qui lie ces deux animaux.
Et
il
oui,
s'agit du livre de la jungle.
Du livre de la jungle, voilà. Ils sont pas forcément ensemble, les tigres, les lions. C'est vrai, dans le livre de la jungle, tous les animaux sont ensemble.
Hein. C'est
vrai. Il y a plus de continents, il y a plus de frontières. Il y a un melting pot d'animaux, mais bon.
Mais c'était dans l'imaginaire de Edward Kipling, je crois, le livre de la jungle.
Exactement. Et bien sûr, il y a le tigre dans les livres de la jungle.
Bien
et
sûr.
Figurez-vous que
Shere Khan, qui est pas gentil d'ailleurs, hein.
Qui est pas.
Autant la panthère est sympa.
Voilà, mais le tigre
mais
est
les
pas.
Tigres, il est
alors,
pas cool.
Alors que vraiment, ils ont un capital sympathie et heureusement parce que ils vont peut-être mieux. En
c'est
tout cas, on a eu une bonne nouvelle cette semaine et nous sommes avec Isabelle Autissier qui est célèbre navigatrice, bien sûr, mais surtout présidente de WWF France. Isabelle, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Laetitia, bonjour François.
Bonjour.
Bienvenue. Alors, au cours du siècle dernier, le nombre de tigres a diminué de 95%, ce qui est énorme. Tout le monde était pessimiste et là, la bonne nouvelle est tombée. Le nombre de tigres a augmenté de 3200, ce qui est déjà pas beaucoup, à 3890 depuis 2010, depuis 5 ans donc. Et c'est quand même une première en 100 ans. Alors je sais que le WWF s'est donné comme objectif de doubler la population de tigres d'ici 2022. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste pour la suite?
Bah écoutez, on va pas bouder notre plaisir, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Vous l'avez dit, le tigre, on est passé, on est encore au bord de l'extinction complète. Hein. Et, pour un peu, il y aurait plus des tigres que dans les eaux et plus dans la nature, ce qui serait dramatique. Donc c'est vrai que le WWF s'est beaucoup mobilisé, a beaucoup mobilisé les États, la communauté scientifique, les communautés paysannes et agricoles qui souvent vivent à proximité des tigres pour essayer de faire quelque chose. Alors, ben oui, on est très content que ça commence à marcher. Alors, vous savez, on continue à croiser les doigts et puis on continue à travailler parce qu'on n'est pas, encore sorti d'affaire. Mais enfin, oui, c'est une bonne nouvelle, oui.
Alors, peut-être revenir, savoir un petit peu où sont les tigres aujourd'hui. Enfin, je veux dire dans la nature, bien sûr, hein, pas dans les parcs, pas dans les eaux. Et quelles sont les menaces qui pèsent sur ces tigres aujourd'hui?
Alors, la très grande partie des tigres sont en Inde. C'est là où il y a peut-être presque 70% de la population de tigres.
Oui.
Mais il y en a pas mal en Russie aussi. Il y en a ensuite en Asie, un peu partout, au Népal, au Bhoutan, au Bangladesh, en Thaïlande. Il y a des pays, malheureusement, où il a complètement disparu, comme le Cambodge, ou le Vietnam, il en resterait peut-être 4 ou 5, mais bon, alors à partir d'un certain moment, les animaux peuvent plus se croiser, peuvent plus se reproduire.
Et oui, 4
en général,
ou 5,
là,
oui.
Ouais, là, on va considérer que, après, il faudrait avoir des politiques de réintroduction, mais ça, c'est autre chose. Mais le principal problème, en fait, c'est quand on coupe la forêt. On coupe la forêt pour mettre des cultures ou pour installer des villes ou des routes ou que sais-je. Et le tigre, il a besoin d'espace parce que c'est évidemment un animal qui chasse. Et il a besoin de grandes forêts pour pouvoir trouver son alimentation. Et puis c'est un animal qui est territorial. Il aime avoir son territoire. Il aime être tranquille sur son territoire. Et donc souvent aussi, quand il n'y a plus de forêt, le tigre, du coup, il sort de la forêt. Et là, il se trouve au contact de la population humaine. En général, ça se finit par une balle de fusil, parce qu'évidemment...
C'est normal, c'est un grand prédateur.
Et il faut d'abord protéger les hommes, quand même. Et donc, c'est toute une politique, à la fois pour lui redonner des endroits de vie, arrêter de couper la forêt, et puis... un travail avec les populations locales, d'abord pour les protéger, donc ça veut dire qu'il faut les gardes, par exemple.
Comment on protège une population de tigres, de l'attaque de tigres?
Bah, tout simplement, on a des gardes qui sont formés dans les villages. C'est l'Inde a beaucoup travaillé sur ce genre de choses. Donc les gens, vous savez, les gens qui vivent à côté des forêts, ils ont l'habitude d'aller à la forêt, ils connaissent, ils savent. Donc ils repèrent les traces, par exemple, des tigres. Ils vont repérer, excusez-moi, on est au petit matin, ils vont repérer les crottes de tigres. ils vont repérer des indices que les animaux sont passés. Donc à ce moment-là, on va non pas comme avant faire des battues pour les tuer, mais on va avoir des gardes qui vont effrayer les animaux pour les empêcher de venir dans les villages, pour qu'ils retournent dans la forêt, ou qui vont, par exemple, les endormir pour les retransporter ailleurs et qu'ils arrêtent de venir là où sont les hommes, quoi. Mais d'un autre côté, c'est aussi intéressant parce que on arrive, et c'est ça a été le gros focus de la conférence qui a eu lieu là en Inde il y a quelques jours, de concilier la présence du tigre et le développement des populations. Et au final, quand on fait par exemple de l'écotourisme et qu'on emmène des touristes dans des zones où peut-être on peut en apercevoir de loin avec des jumelles, etc., ça fait des ressources pour les gens des villages.
Peut-être que l'écotourisme, on le voit aussi par exemple pour les gorilles, on voit aussi, on va en parler après de l'ours des Pyrénées, on sait que on peut développer une économie locale rien qu'avec la présence d'un prédateur que tout le monde veut voir, quoi, ou que tout le monde connaît.
Absolument, c'est tellement merveilleux et c'est tellement rarissime que il y a des gens qui effectivement sont prêts à aller passer leurs vacances ou à payer pour essayer d'en voir. Et je crois que c'est ça l'avenir. C'est pas les hommes contre les animaux, parce que ça c'est idiot, quoi. C'est les hommes et les animaux ensemble sur une même planète. C'est vraiment ce que WWF défend. Là, on en a, on a un petit lueur d'espoir qui s'allume.
Alors, vous dites aussi qu'il est important de sauver les tigres. On parle d'espèces parapluies. Ça veut dire quoi?
Oui. Ça, c'est une petite expression entre défenseurs de la nature et des animaux. Une espèce parapluie, c'est en général une grande espèce, vous en avez cité, les orang-outans, les tigres, les loups, les ours, les baleines, tous ces animaux qui nous sont très connus, sur lesquels on a un imaginaire, sur lesquels on a une certaine proximité, j'allais dire un peu intellectuelle. Enfin voilà, tous ces animaux, on les connaît bien, on les aime bien, on a envie de les protéger, ils font rêver, mais ce que je disais tout à l'heure, quand on protège le tigre, qu'on lui laisse un espace de forêt naturel, on protège tous les animaux de la forêt, même le plus petit ver de terre, si j'ose dire, même les petits papillons, parce qu'on protège la forêt. Et pour nous, humains, c'est plus facile de se mobiliser sur la protection du tigre que la forêt comme ça. Forêt, je veux dire, forêt, mais bon.
Oui, c'est vrai, peu connue.
Les tigres, enfants ont des pluches de tigres dans les bras. On a tous vu des films sur le tigre. On trouve tous que c'est un animal formidable. Donc, en protégeant le tigre sert de parapluie, en quelque sorte, à l'ensemble des animaux de la forêt. Donc, l'ensemble des animaux de la forêt, je pense qu'ils peuvent, d'une certaine façon, lui dire merci.
En tout cas, vous avez aussi un soutien de taille, quand même, c'est Leonardo DiCaprio, qui œuvre avec le WWF pour le tigre, quand même. Alors, je ne sais pas si vous l'avez rencontré.
Alors, je n'ai pas eu cette chance, mais ça viendra peut-être. Oui. Parce que Leonardo DiCaprio est même au conseil d'administration du WWF aux USA. Il est très, très proche de nous. On peut dire qu'il fait partie de la communauté du WWF, de la communauté des pandas, c'est comme ça qu'on nous appelle souvent. et c'est vrai qu'il s'est beaucoup mobilisé là-dessus et il nous aide beaucoup parce que c'est un relais d'opinion et même un relais pour toucher des personnalités politiques
bien
et autres.
Quoi. Bien sûr, c'est sûr.
Merci beaucoup Isabelle d'avoir été avec nous ce matin.
Merci beaucoup.
Merci, bonne continuation.
Merci.
Présidente de WWF France, on revient dans un instant, Laetitia. On va parler des ours.
Et oui,
après les tigres.
Autre
star d'ailleurs du film.
Et autre star du film. Mais là, on parlera des ours des Pyrénées,
évidemment. Et puis, entre 7h30 et 7h45, vous saurez tout sur le livre de la jungle, la nouvelle version qui est au cinéma depuis mercredi. Aurélie Frex a rencontré Lambert Wilson qui double l'un des personnages. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h20, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux. Vous nous écoutez tous les dimanches et vous voulez poursuivre la discussion et partager votre passion des animaux, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook de Vos Animaux sur RMC. Vous cliquez sur « J'aime ». Voilà, et comme ça, vous serez au courant des sujets qu'on évoque et vous pourrez, bien évidemment, rentrer en contact avec toute l'équipe. Donc, Vos Animaux sur RMC, et c'est la page Facebook. Laetitia, on va parler maintenant des ours des Pyrénées.
Et oui, on est dans les grands prédateurs et nous sommes avec Patrick Papola qui est de l'association Férus, qui est une association de protection des grands protecteurs, des grands prédateurs, pardon, en France.
Bonjour.
Patrick, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Alors, cette année, en mai, nous fêtons les 20 ans des premiers relâchés d'ours en France. Alors, l'occasion quand même de faire pour nous la situation, de faire le point sur la situation de l'ours dans les Pyrénées. Alors, quelle est-elle? Combien dénombre-t-on d'ours dans les Pyrénées?
Alors, d'abord, on parle de l'ours des Pyrénées, c'est-à-dire des deux côtés de la frontière. Il n'y a pas de distinguo qui est fait entre l'Espagne et la France.
Eh oui, parce que eux, ils ne connaissent pas les frontières, les ours.
Voilà, donc quand on parle de la population d'ours des Pyrénées, ça va être des deux côtés de la frontière, y compris en Andorre aussi. Donc il y a trois pays qui sont concernés. Donc on revient de très loin, puisqu'en 1995, on n'avait plus que 5-6 ours sur tout le massif. Et puis il y a un lâcher expérimental qui a eu lieu en 96 et en 97, où on a lâché 3 individus.
Oui.
Puis 5 individus ont été lâchés en 2006. Et petit à petit, la population s'est mise à augmenter tout doucement, donc ça augmente lentement. Et donc pour vous expliquer un petit peu donc c'est une des populations d'ours les plus connues de la planète, ils sont très suivis. Et en France, c'est l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui centralise toutes les informations que les personnes sur le terrain font remonter. Donc au dernier comptage pour 2015, on atteint une population de 27 ours qui ont été clairement déterminés. Quoi.
Avec les oursons?
Parce que oursons.
Il y a eu 6 oursons qui sont nés en 2015.
Voilà, en 2015, il y a eu 3 portées. Une portée avec un ourson, une avec 2 oursons et une avec 3 oursons. Donc ça fait 6 oursons en plus.
Oui.
Donc ça c'est pour 2015. Et chaque année, on a des naissances comme ça. Donc chaque année, on a quelques ours qui s'ajoutent petit à petit. Il n'y a pas énormément de mortalité.
Oui, parce que les oursons, ils sont... Parce que bon, c'est vrai que des portées de 3 oursons, peut-être qu'il y en a qui vont pas survivre, non?
Oui, alors c'est assez particulier parce qu'on s'aperçoit que dans les Pyrénées, il y a un fort taux de survie des oursons. Donc c'est vraiment le
signe. Tant mieux.
Chouette.
Voilà, donc c'est le signe que l'habitat est en très bon état. On a eu une étude là qui a été faite en 2013 par des experts et qui ont déterminé que vraiment les Pyrénées pourraient dès demain accueillir plus d'une centaine d'ours et même jusqu'à 250 sans aucun problème du point de vue de la disponibilité écologique, c'est-à-dire les zones de tranquillité, la nourriture et tout ce dont ils ont besoin. Alors souvent les gens pensent que y a trop d'activités humaines dans les Pyrénées et ça pose un problème de ce côté-là, mais pas du tout quoi. On s'aperçoit que y a vraiment de la place et puis l'ours peut se rapprocher aussi de certaines activités humaines. On sait que dans les Asturies par exemple, en Espagne, où il y a une population de 200 ours, il y a des tanières à 400 mètres des villages et ça pose pas vraiment de problème. Voilà, donc il y a une cohabitation aussi avec les... Oui.
C'est vrai que on entend beaucoup parler ces derniers mois, ces dernières années, des prédations de loups, enfin des problèmes de cohabitation entre les loups et les élevages de moutons, mais on n'entend pas parler de problèmes de cohabitation d'ours avec les élevages de moutons.
L'impact de l'ours sur l'élevage, il peut être important ponctuellement et localement, mais il y a des mesures de protection qui sont en place pour ça et qui sont vraiment efficaces. Mais
ils cohabitent bien avec les bergers, en fin de compte.
Oui, parce que déjà, du fait de l'ours, il y a 500 postes de bergers qui ont été créés, qui sont mis en place chaque année, chaque été dans les Pyrénées. Donc l'ours, c'est un petit peu l'ami des bergers. Si on veut des ours, il faut des bergers. Et c'est vrai que l'ours apporte, de ce point de vue-là, au pastoralisme et à l'élevage... Par les aides qui permet aux bergers, quoi. Notamment, on refait les cabanes de bergers, tout ça, c'est avec de l'argent que permet l'ours au niveau national et au niveau européen. Par exemple, les bergers ont tout leur matériel qui est transporté par hélico en début et en fin d'estive.
Grâce à l'ours, quelque part.
Grâce à l'ours. Mmh. Et après, si on regarde les pertes sur les cheptels, sur les élevages, c'est vraiment très peu, c'est moins de 1%, parce qu'on a à peu près 600 000 brebis tout l'été dans les Pyrénées. Et sur ces 600 000 brebis, il y a une perte de 20 à 30 000, mais pas du tout liée à l'ours. Ça va être des maladies, la foudre, des parasites, les chiens.
Aussi. Les chiens errants, oui.
Voilà, donc 20 à 30 000 qui sont perdus chaque été. Et si on prend 2015, l'ours n'a prédaté que 143 brebis. Donc c'est très peu par rapport à 20 à 30 000. Voilà.
Et alors, on parlait avec Isabelle Autissier du fait que, par exemple, là, on parlait du tigre, que sa présence peut être aussi bénéfique d'un point de vue économique. Est-ce que c'est la même chose pour l'ours ?
Oui, alors les Pyrénéens sont attachés à l'ours, ils en parlent. Quand on se promène dans les Pyrénées, on va voir qu'il y a des restaurants qui vont s'appeler la tute de l'ours. Voilà, il y a
des peluches.
Des peluches. Et puis il y a des accompagnateurs en montagne aussi qui proposent des activités sur les traces d'indices de présence de l'ours. D'ailleurs, ce sont les mêmes indices que ceux qui permettent de déterminer avec précision le nombre de d'ours qui constituent la population. Et puis sur les activités économiques, bon, la difficulté qu'on a quand même, c'est que tant que l'État n'a pas une position ferme sur le fait qu'il travaille sur la viabilité de la population, on est dans des incertitudes qui font que les efforts humains, financiers qui sont faits pour un programme de développement économique, touristique, sont ralentis et c'est beaucoup plus difficile.
Oui, parce que vous demandez des relâchés d'ours, ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu de relâchés d'ours.
Oui, le dernier c'était en 2006. Donc il y a des pays où il y a des lâchers qui sont faits chaque année et puis ça se passe régulièrement, puis il n'y a pas plus de problèmes que ça. Moi, quand on voit les naissances qu'il y a eu, quand on voit qu'il y a 6 naissances, bon, ça fait 6 ours en plus, c'est pas une catastrophe, c'est pas la fin du monde, ni de l'élevage, ni les personnes. Voilà, ça pose pas vraiment de problème. Et donc nous, on a vraiment un blocage de l'État depuis 2011. Nicolas Sarkozy a annulé un lâcher qui devait avoir lieu à l'ouest de la chaîne, dans les Pyrénées occidentales. Ségolène Royal verrouille complètement le sujet. Je crois qu'elle a une grande méconnaissance d'ailleurs de la question, hein, parce que l'État a commandé un rapport, j'en parlais tout à l'heure, qui préconise pour que la population soit viable, dans les 3 à 4 ans, il faudrait lâcher au minimum 6 ours.
Et je crois qu'il y a un problème, il y a des ours mâles qui sont isolés dans un coin,
ils peuvent pas rencontrer de fiancés.
Et ils peuvent pas rencontrer de fiancés, c'est ça ?
C'est embêtant.
C'est ça. Et c'est depuis 2004, hein, depuis que la femelle cannelle a été abattue par un chasseur. Son ourson, qui a survécu, vit seul à l'ouest de la chaîne avec son père, qui s'appelle Néré. Alors Néré, c'est un ours un peu extraordinaire parce que c'est celui qui a fait la jonction entre les ours lâchés dans les Pyrénées centrales et le noyau originel qui était dans les Pyrénées à l'ouest de la chaîne. Donc il reste plus que ces deux mâles et ces deux mâles se partagent la moitié de l'aire de répartition totale de l'ours. Ils n'ont pas vu de femelles depuis 2004 et c'est là qu'il faut d'urgence lâcher des femelles, quoi.
Eh oui.
On va créer un site internet de rencontres.
Ouais, oui, sur le site de Férus, vous pourrez trouver toutes ces informations.
C'est vrai.
Merci beaucoup, Patrick.
Merci beaucoup. Donc, il faut relâcher des ours dans les Pyrénées. Voilà. Il faut aller, c'est vrai. Aller sur le site de Férus, F-E-R-U-S. Vous aurez toutes les informations sur l'ours. Et puis, il y a des pétitions, etc. à signer pour l'ours des Pyrénées. Parce que, franchement, c'est sympa d'avoir des ours en France. Vous voyez?
En tout cas, il n'y en a pas assez.
Voilà. Et peut-être qu'on aura, comme c'est le printemps, vous savez, les femelles sortent de l'hibernation. Peut-être qu'il y aura de nouveaux oursons.
Espérons-le.
On croise les
doigts.
On
en parlera. Laetitia, la météo des infos. Et on va s'intéresser au livre de la jungle qui est disponible dans les salles depuis mercredi dernier. On en parle avec Aurélie, notre productrice. À tout de suite. Attention, Laetitia, petite question flash. En moins de 2 minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Claire que voici. Je voyage beaucoup et jusqu'à présent, mon chien de 12 ans était gardé à mon domicile par mes enfants. Ils ne sont plus disponibles. Du coup, j'ai pensé à ma sœur qui vit seule dans une villa, dans une maison, avec jardin. Va-t-il bien vivre ce changement, Laetitia, chien ?
C'est marrant. 12 ans, hein ? 12 ans, oui, non, mais c'est marrant parce que souvent, c'est des questions plutôt pour des chats, parce qu'on sait que les chats sont habitués à leur environnement, à leur territoire. Alors là, vous savez, le plus important pour le chien, c'est pas son environnement, même si ça le rassure, c'est plutôt sa relation avec son maître ou son substitut.
D'accord.
Or, le substitut de son maître, ça sera votre sœur. Et si elle aime, en plus, elle vit seule, elle n'aura elle passera son temps à s'occuper de votre chien.
Et donc, là, ça va être bien.
Ben oui, faut pas paniquer, hein, faut pas, alors surtout pas paniquer, parce que alors le chien, quand si vous voit paniquer quand vous partez en vacances, et là il sera très anxieux. Donc non. Alors ce que vous pouvez faire, c'est en attendant un petit week-end, vous lui laissez le chien.
Voilà,
pour qu'il s'habitue à l'environnement, nouvel environnement, nouvelles habitudes, qu'il prenne ses marques. Et vous allez voir que chez votre sœur, ça va être des vacances pour lui, parce qu'il va rencontrer quelqu'un d'autre qui aime aime les chiens, j'imagine, qui va bien s'occuper de lui, il va avoir son jardin, la maison, etc. Donc, vous inquiétez pas, même s'il a 12 ans, même s'il a ses habitudes, c'est vrai que les chiens ont leurs habitudes et que ça augmente ses habitudes, qu'elles sont très importantes quand ils vieillissent, mais amenez-lui son couffin, sa gamelle, ses croquettes, voyez, ses petites habitudes comme ça, éventuellement, vous mettez un de vos pulls dans son couffin pour qu'il ait votre odeur les premiers jours, et tout va bien se passer. Le plus important, c'est vraiment cette relation qu'il va avoir avec votre sœur, qui sera beaucoup plus importante que son environnement, voilà, qu'il soit plus à son domicile.
Et puis peut-être qu'il va rencontrer de nouveaux copains aussi.
Et peut-être oui.
Ça,
vous
cool.
allez voir, vous allez revenir, il va être en pleine forme, vous allez dire, bon bah je repars en vacances.
Voilà, c'est ça.
RMC, le week-end des experts. Vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
C'est le week-end des experts, les animaux, il est 7h35, merci d'être là et bon dimanche à vous toutes et à vous tous et bon réveil. Votre matinée chez nous à partir de 8h moins le quart, direction la Chine pour vivre ce Grand Prix de Formule 1 en direct en intégralité avec toute la Dream Team d'RMC et bien sûr Jean-Luc Roy. D'ici là Laetitia, on va maintenant s'intéresser au film Le Livre de la Jungle.
Qui vient de sortir en salle mercredi.
Eh oui.
Et il est super.
Voilà.
Vraiment.
Ouais,
moi je m'attendais vraiment, j'y allais vraiment les... Je traînais les pieds parce que je dis, oh quand même, le chef-d'œuvre de Walt Disney, faut pas le refaire.
C'est vrai que c'est quand même un film mythique qui a bercé l'enfance de millions et de millions d'individus.
J'étais très agréablement surprise. Il est superbe ce film.
On écoute un extrait de la bande-annonce.
Toi, tu es un petit homme qui veut vivre dans la jungle.
Oui, qui vous l'a dit?
Petit, j'ai des oreilles, de bonnes oreilles. Je suis le seul qui puisse te protéger.
Rien ne l'arrêtera, tant qu'il n'aura pas ce petit.
S'il arrive malheur à Mowgli, je ne me le pardonnerai jamais.
Voilà, Le Livre de la Jungle disponible, enfin voilà, qui est sorti dans les salles mercredi dernier. Aurélie, notre productrice et aussi reporter de temps en temps dans ce rendez-vous animaux, est avec nous. Salut Aurélie.
Salut François, Laetitia.
Salut.
Bonjour aux auditeurs, bien sûr.
Alors, vous l'avez vu ce film?
Eh oui, je l'ai vu avec Laetitia.
Avec Laetitia.
En 3D.
En voilà. Plus en 3D, d'accord.
En 3D, oui. Donc c'est effectivement signé Walt Disney, comme le fameux dessin animé qu'on a connu, qui date quand même des années 60, hein, de
oui.
1967.
Mais ça a tout le monde le connaît.
Mais c'est vrai. Ça nous a tous marqué,
ce film. Je pensais pas qu'il était aussi vieux, ce dessin animé.
Voilà. Et puis le livre de la jungle, le livre de Rudyard Kipling, ça date de la fin du 19e siècle. Donc c'est un classique qui est en nous, hein, vraiment. Donc c'était risqué quand même pour Disney.
Qu'est-ce qui change, en fait? Là, c'est des prises de vue réelles, c'est ça?
Voilà. C'est en prise de vue réelle. Donc Mowgli. Le petit garçon est un vrai petit garçon. C'est un acteur qui s'appelle Neil Setti, qui
D'accord.
est un jeune acteur américain qui a 12 ans, qui a été choisi parmi 2000 enfants.
Et qui joue très très bien.
Voilà.
Vraiment.
Donc voilà. Et lui, il est en prise de vue réelle, dans une nature réelle, et les animaux, eux, sont numérisés.
Alors, c'est marrant parce qu'on sait pas quand c'est de la fiction, enfin quand c'est numérisé ou quand c'est du vrai film, parce
c'est
qu'ils
vrai.
Sont tellement bien les animaux. C'est voilà, on
mais
a
aujourd'hui
l'impression que
on arrive avec des images 3D à voir des animaux plus vrais que nature. Quoi.
Oui, c'est vrai. C'est la technique qu'on appelle motion picture qui permet cet effet de réalité, parce que même les animaux parlent, donc on voit leur bouche bouger.
Oui, mais c'est pas grossier. C'est vraiment très discret quand
d'accord.
ils parlent. C'est pas comme dans certains films où là on voit vraiment les bouches. Non, c'est très discret et on n'est pas étonné qu'il parle en fin de compte. C'est vrai?
Exactement.
Alors ça parle de quoi ce film?
Voilà, donc on va rappeler l'histoire. Donc l'histoire de Mowgli, c'est l'histoire de ce petit garçon qui grandit dans la jungle parmi les animaux et qui est recueilli par les loups, par sa mère adoptive notamment Raksha qui la protège. Et à un moment donné, ça commence à déranger un petit peu les animaux de la jungle et notamment le tigre Sherka. voilà, et le méchant tigre. Et voilà, Mowgli doit choisir et doit trouver sa place. Appartient-il à la jungle et au monde des animaux, ou doit-il retourner parmi les humains?
Alors, on retrouve les mêmes personnages quand même que dans le dessin animé. Hein.
Ben oui, si je vous dis Bagheera, la fameuse panthère protectrice, la louve évidemment qui s'appelle Raksha, et Akela, le chef des loups, et le méchant tigre Shere Khan, et bien sûr l'ours Balou.
Il en faut peu pour être heureux. C'est exactement ça.
Quel film, c'est incroyable. Tout le monde connaît cette chanson, quoi. C'est ça qui est dingue.
Oui,
exactement.
Et on la retrouve d'ailleurs dans le film.
Oui. Et donc les voix françaises, puisqu'on va aller le voir évidemment en version française. Donc c'est l'actrice Laila Bekti qui fait le Serpent K. Alors le Serpent K. qui était un garçon dans notre dessin animé qui disait « Aie confiance ».
C'est ça. Et il hypnotisait en fait Mowgli avec ses yeux.
Et bien c'est devenu la belle Layla Bechti, et dans la version anglaise d'ailleurs c'est Scarlett Johansson.
Voilà.
La Louve et Cécile de France. Le roi Louis qui est un gigantesque singe roublard qui veut soutirer le secret du feu à Mowgli. Lui c'est Eddie Mitchell. L'ours Balou c'est Lambert Wilson.
C'est incroyable.
Incroyable. Lambert Wilson dans la peau d'un ours. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait Aurélie?
Et oui cet acteur gentleman quand même, césarisé pour des hommes et des dieux. Qui est aussi dans le film Matrix par exemple, qui est une star internationale, et lui il a choisi ce personnage. C'est quelqu'un qui est habitué au doublage pour Disney et qui est tombé amoureux de Balou. On l'écoute.
Balou, c'est l'humanité dans tout ce qu'elle a dit de plus irrésistible, parce que c'est une humanité qui est pleine de défauts et de très grande qualité. Alors ça fait rire parce qu'effectivement il est manipulateur, il est flemmard, il est menteur, il est opportuniste, il se sert de l'intelligence et de l'agilité de Mowgli. Mais il lui raconte des bobards, c'est un embobineur. Et en même temps, il est bonne patte, il a un bon cœur, il est fidèle, il est courageux s'il le faut, mais il a surtout, c'est vraiment l'ami qu'on aimerait avoir, quoi. Il sera toujours là.
Et oui, en fait, Balou, c'est comme un être humain, voilà. Et mais surtout, Lambert Wilson, il a enregistré cette fameuse chanson, donc on a envie d'entendre la version de Il en faut peu pour être heureux par Lambert Wilson. Allez, on l'écoute.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire.
Ils chantent bien, hein.
C'est une version un peu country, un peu détachée comme ça.
Ça donne la pêche.
Ouais, ça donne la pêche. Et d'ailleurs, Laetitia, on a vu le film il y a une quinzaine.
Qui respecte aussi la version originale, je trouve. C'est-à-dire qu'on a, la même ambiance.
Oui, c'est ça. C'est fun, ça rend joyeux. C'est cette philosophie. Voilà, il en faut peu pour être heureux. C'est ça. Et d'ailleurs, cette chanson, on l'a dans la tête et on est bien après avoir vu le film.
C'est vrai. On était très bien.
Voilà. Donc en gros, on a adoré le film. Mention spéciale pour le jeune acteur, pour le personnage de Balou et aussi pour le personnage du roi Louis, doublé par Eddie Mitchell. Voilà. Et cette histoire n'en finit plus de passionner parce que le démarrage du film est excellent. Ça cartonne. Deuxième meilleur démarrage depuis le début de l'année. Et une suite est prévue.
Et déjà prévue, ouais. Je crois qu'ils sont en train de la tourner, là.
Exactement. Et bon, on est quand même dans un rendez-vous animaux. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Lambert Wilson. Alors, je lui ai demandé s'il avait des animaux ou s'il rêvait d'en avoir. Voilà ce qu'il m'a répondu.
Le grand drame de ma vie, c'est que je peux pas en avoir parce que je voyage trop et que ma vie professionnelle m'empêche d'avoir une base. Mais mon rêve absolu, c'est vraiment d'avoir une maison avec plein de chiens surtout. Mais je pense que j'aurai aussi des chevaux. J'ai fait beaucoup de cheval quand j'étais petit, donc ça fait partie des projets de vie. Peut-être pour la retraite, on va dire.
Bah, du coup, Laetitia, peut-être qu'il vous engagera comme vétérinaire.
Moi, je fais tous les animaux.
Vétérinaire de Lambert Wilson.
Vétérinaire rapproché de Lambert Wilson.
Ça peut être pas mal.
Oui, je m'occupe de ses chiens, de ses chevaux, voilà. Il n'y a pas de problème. Il a déjà la vétérinaire.
Bon, en tout cas, courez au cinéma en famille. Vraiment.
Très bien. Merci beaucoup, Aurélie.
Merci.
Ça donne envie, en tout cas, de découvrir ce film donc dans les salles depuis mercredi dernier. Merci beaucoup, Aurélie. Laetitia, on se retrouve bien sûr dimanche prochain.
Et oui, bientôt. La Formule 1.
La Formule 1 dans un instant avec The Master of the Formula 1. Il est là.
Yes, sir.
Jean-Luc Croix. Salut Jean-Luc.
Salut François, bonjour
à
tous.
Bonjour
Jean-Luc. Bon, ça va, t'es prêt? Tout est OK?
Moi, je suis complètement prêt. C'est Hamilton qu'il faut demander ça parce qu'il part du fond de la grille. Donc, ça devrait être chaud. Et puis, il y en a un qui va avoir chaud aux fesses. J'entendais tout à l'heure les poules dont il faut mettre l'arrière-train dans l'eau. Tu vois, je vous écoute.
Je pense que
Daniel Ricciardo, ça va être pareil parce qu'il a deux Ferrari derrière. À mon avis, ça va être très très chaud. Je savais que ça me plairait.
Ah, ça, c'est clair. Ça, c'est bien. Est-ce que tu as des conseils à donner aux poules qui nous couvent sans œufs?
Alors, écoute, j'en ai connu beaucoup. Ma vie est déjà longue. Alors justement, mes filles ont eu des poules naines, je voulais savoir. Ça, c'est pas une plaisanterie, c'est vrai. Et malheureusement, on nous avait offert un coq. Je ne vous raconte pas la suite, c'était épouvantable. Voilà.
Jean-Luc Croix dans un instant sur RMC pour la Formule 1.
Mais je ne vous parlerai pas de poules, mais je vais parler de coq.
De quoi? Tu vas nous parler de poule position.
De poule position.
Là, j'aurais pas risqué ce coup-là.
De poule, de chevaux.
On s'arrête là, c'est une belle sortie.
Voilà, magnifique François. Laetitia, dimanche prochain.
Je vous embrasse tous, à dimanche prochain. Bonne semaine.
Et dans un instant, la F1 sur RMC.